dernière fois, je vous parlais de l'Imperium. Cet acte si important dans notre... parmi nos activités morales, puisque c'est le passage de tout ce qu'on a mûri au-dedans de nous-mêmes. L'amour, l'intention, le conseil, le choix. Tout cela peut demeurer secret. Le conseil, pas toujours. On peut demander conseil. Mais le choix est toujours personnel, même si on demande conseil. En définitive, c'est chacun d'entre nous qui ont choisi personnellement. Je ne peux pas choisir pour quelqu'un d'autre. Sauf si quelqu'un est en tutelle. Alors je choisis pour lui. Mais normalement, un être humain capable de se conduire lui-même choisit personnellement. C'est un acte très personnel, le choix. L'Imperium, c'est ayant choisi, on se jette à l'eau. C'est vraiment cela. Donc, ce qu'on a choisi intérieurement va se manifester. Et c'est là où il y a de fait constamment de gros obstacles. Les intellectuels qui ont beaucoup réfléchi, qui voient bien toutes les difficultés, ont beaucoup de peine à choisir à cause des difficultés. Ceux qui ont moins réfléchi, plus vite s'engagent, et quelquefois trop vite. L'Imperium est un acte de fait, de prudence, pour passer à l'acte, à l'exercice, au bon moment, in tempore opportuno, dans le temps qui est favorable. Si on se jette à l'eau n'importe quand, les crocodiles peuvent venir vous dévorer. Donc on ne se jette pas à l'eau in tempore opportuno quand il y a des crocodiles. On fait attention. On attend leur passage. Et quand ils ne nous regardent plus, on peut y aller. C'est très important, ça. Vous voyez, la question du temps joue énormément avec la question d'Imperium. Alors, quelquefois, on attend trop longtemps. Parce qu'après un crocodile, il peut y en avoir un plus gros. Avant, pour les chemins de fer, un train en cache un autre. Un crocodile peut en cacher un autre. Alors on dit, il est passé, ça y est, on se jette. Et on n'en voit pas qu'un autre. Alors, il faut comprendre que la question du temps est très importante dans la question de l'Imperium. On doit faire attention de ne pas se jeter à l'eau inutilement. Il faut au contraire savoir que c'est bon. L'Imperium exige beaucoup de force. On a décidé de le faire, même si c'est difficile, et si la lutte commence, tant pis, on continue. Oui, il faut donc être très finalisé dans son choix. Il faut que l'amour présent dans l'intention de vie, soit là de nouveau, très présent, puisque c'est l'amour qui nous fortifie. Quand on aime, on est capable de se battre. mesure où je me commande moi-même que ma prudence commence à pousser. Pour les Suarésiens, l'impérium est un acte de volonté. Mais ça fait deux spiritualités très différentes. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant à étudier. Je dis rapidement, parce que c'est intéressant de savoir qu'il y a là un nœud. Il est évident que l'impérium implique l'amour, je viens de vous le dire. Mais ce n'est pas ce qui caractérise l'impérium. Ce n'est pas la volonté. C'est vraiment l'ordre que vous mettez dans l'exécution. Vous savez qu'il faut ordonner l'exécution. Et qu'il y a un ordre propre à l'exécution. Il y a un point de départ et un terme. Et parce que c'est l'ordre qui domine dans l'impérium, fais ceci maintenant. Après, tu feras ça. Fais ceci. Fais ceci, obéis. Puisqu'il y a un ordre, c'est l'intelligence qui passe avant. À l'intérieur de l'amour, l'acte d'intelligence, donc de prudence, d'intelligence pratique. Et cet ordre, dans l'exécution, pour Suarez, l'impérium est avant tout un acte d'amour, de volonté. Et le volontarisme, bien connu des Suarésiens, alors, on insiste sur la volonté pour exécuter. C'est sûr que si on manque de volonté, on n'arrivera pas à passer à l'exécution. Alors, psychologiquement, l'impérium apparaît toujours comme un acte de force et donc de volonté. Alors que, profondément, l'impérium est un acte d'intelligence qui ordonne l'exécution. Oui. Il y a une question d'accent. C'est évident que l'impérium implique intelligence et volonté. Mais qu'est-ce qui est propre à l'impérium? Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est la volonté? Et je crois que pour Thomas d'Aquin, l'impérium est vraiment un acte d'intelligence. Mais même dans saint Thomas, c'est pas toujours très net. De temps en temps, on aura l'impression qu'il dit que c'est un acte volontaire. Mais dans l'analyse qu'il fait de l'impérium, on voit bien que c'est le point de vue de l'ordre qui caractérise l'impérium. Fais ceci, vous voyez, il y a un ordre. Fais ceci maintenant, ensuite tu feras autre chose. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même très important de voir ce qui détermine, ce qui spécifie l'impérium. Parce que c'est par la spécification que l'acte peut reprendre toute son originalité. Et un acte qui ne s'exerce pas selon son originalité n'a pas la netteté qu'il faudrait. Or, il faut que l'impérium soit très net. Un commandement impératif et quelque chose de net. Oui, un supérieur auquel on ne sait pas si c'est ceci ou cela, ça reste vague. Ça enlève toute la force. C'est la détermination qui ramène notre capital affectif et d'efficacité vers un acte particulier, fait ceci. Si je ne ramène pas tout à cet acte particulier, je serai dans le doute, j'hésiterai. Mais ce que vous voyez dans les scrupuleux, je plusieurs fois des actes d'Imperium. Chaque fois qu'on tape pour la fin d'un cours, l'Imperium, il y a un petit commandement. Et on obéit. Alors l'obéissance est un acte volontaire, mais qui présuppose Imperium. Et alors l'Imperium peut venir de l'extérieur, c'est sûr. L'autorité vient de l'extérieur. Mais quand on obéit, on fait de l'autorité notre propre Imperium. Oui, c'est ça qui est tout à fait particulier. C'est pour ça que l'Imperium est si important. Parce que l'Imperium me fait comprendre comment cet Imperium, cet acte de commandement, peut venir de moi. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai décidé. C'est moi qui décide. Au contraire, j'ai beaucoup réfléchi, mais je sais que je dois obéir. Et à ce moment-là, quand on obéit, on prend l'Imperium de celui qui a autorité sur moi pour être mon Imperium. Mais c'est en ce sens-là qu'on dit que l'acte d'obéissance implique toujours un jugement ou meurt à soi-même, à notre propre jugement prudentiel, pour accepter l'ordre de celui qui a autorité sur moi et d'accepter son acte particulier où il me met dans une situation spéciale. Je veux faire ce qui m'est demandé et je ne veux pas faire ce qui est propre à moi. Et alors il y a donc dans l'Imperium cette possibilité de faire qu'un autre le dise. Et ceci montre bien que l'Imperium est un acte d'intelligence. Si l'Imperium est un acte volontaire, un autre ne peut pas me le donner. C'est ça qui est un peu terrible dans toute cette théorie de Suarez, c'est que petit à petit, ça supprime l'obéissance. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Surtout aujourd'hui, où l'obéissance est en péril, hein. On sait très bien. C'est une des choses les plus difficiles pour nous, c'est d'obéir. Il n'y a pas d'éducation possible sans obéissance. Impossible. Je ne peux pas éduquer quelqu'un s'il n'obéit pas. Or, il obéit quand je lui donne un ordre. Fais ceci. On obéit à la loi, on obéit à celui qui interprète la loi. Fais ceci. Si ce fais ceci est un acte volontaire, comment voulez-vous que j'accepte un acte volontaire d'un autre? Parce que l'acte volontaire est toujours subjectif. Alors, je meurs à moi-même pour prendre la personnalité de l'autre. C'est pas l'obéissance. Dans l'obéissance, je reste moi-même et j'obéis. Et pour rester soi-même et accepter ce que l'autre me dit, il faut justement que ce soit un échange au niveau de l'intelligence. L'intelligence peut accepter l'autre s'il a autorité. L'acte volontaire ne peut jamais être un acte volontaire d'un autre. Et ça, c'est pour ça que c'est très important de bien saisir comment l'Imperium est un acte d'intelligence prudentielle. Et cet acte d'intelligence prudentielle peut être tout simplement le fait qu'il faut obéir à quelqu'un. Donc là, un problème extrêmement important aujourd'hui. La manière dont Freud regarde l'obéissance, c'est justement qu'il comprend l'Imperium comme un acte volontaire. Alors ça devient tyrannique. C'est par l'affectivité que vous devenez tyran. Soit l'affectivité peut me mettre très proche et faire qu'on ait des amis, mais l'affectivité peut, au niveau parce qu'il montre que ce qu'il demande est en vue de la fin. Il montre l'ordre qui existe entre ce qu'il commande et la finalité. Alors à ce moment-là, c'est pas tyrannique. C'est permettre à l'autre d'atteindre plus vite sa fin. Si vous obéissez, c'est pour atteindre plus vite votre fin. C'est pour que votre finalité soit plus immédiate. C'est pour ça que l'acte d'obéissance n'aliène jamais. L'acte d'obéissance m'agrandit. Puisque je prends l'impérium du supérieur à la place de mon impérium. Or, l'impérium du supérieur, par définition, est supérieur. Je ne vois pas très bien, quelquefois, comment il est supérieur. Mais j'accepte son autorité. Et en tant qu'il a autorité, son impérium me dépasse. Et donc, en obéissant, loin d'être aliéné, je suis exalté. C'est très curieux. Mon âme exalte le Seigneur dans l'obéissance et par l'obéissance. Ça, vous voyez, je crois que c'est capital pour la question de l'éducation, de la païdéia. C'est capital, ça. De bien comprendre que l'impérium est un acte d'intelligence pratique. Après l'impérium, c'est l'usage, l'application. Fais ceci. Je suis mobilisé par mon acte d'impérium pour m'engager, pour faire ceci. Et pour faire ceci, il faut nécessairement m'appliquer et appliquer ma volonté à réaliser ce que j'ai décidé de réaliser. J'ai décidé de faire de la philosophie. Prenez cet exemple. J'ai décidé de faire de la philosophie. J'ai décidé de faire de la philosophie à tel endroit. Ayant réfléchi, j'ai dit, c'est là qu'il vaut mieux que j'y aille. Parce que j'ai entendu parler. On m'a dit, c'était là. J'y vais. Vous voyez, j'y vais. Voilà l'application. Je prends les moyens pour y aller. Ou en avion. Ou par le train. Ou par l'auto. Ou par la bicyclette. Ou par le pied. J'y vais. L'exécution, l'application. Vous voyez, l'application est différente. Si vous prenez l'avion, si vous prenez le train, si vous prenez l'auto, si vous allez à pied, c'est l'application. Et une fois que j'y suis, je m'applique. Nouvelle application. Je veux faire de la philosophie. Faire de la philosophie implique nécessairement une application particulière. Je suis des cours, je travaille. Je travaille en lisant telle ou telle chose importante. L'application, c'est un acte complexe, mais très important. Et j'ai décidé de réaliser cette chose-là. Pour la réaliser, je m'y engage entièrement. Et l'engagement, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'engagement, l'engagement implique nécessairement l'impérium et l'usage. Il y a les deux choses. Alors, ce serait intéressant de voir comment, de fait, les deux dans l'engagement. Ouzous. Ça, c'est l'engagement. On a opposé, distingué l'engagement et le spectateur. Vous voyez ça tout de suite quand il y a un accident d'auto. Vous assistez à un accident d'auto, vous êtes spectateur. Il vaut mieux être spectateur dedans. Hein. Et puis, on vient vous trouver en vous disant, acceptez-vous d'être témoin. Pour être témoin, vous devez vous engager. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on est spectateur. Dès qu'on voit un gendarme qui vient vous trouver, on s'en va à toute vitesse. Parce qu'on veut être que spectateur. On veut surtout pas être témoin. C'est trop délicat, trop difficile. C'est un ami qui conduisait. Il a fait une bêtise. Il faut pas quand même témoigner contre lui. C'est impossible, je peux pas faire ça. Ça va brouiller notre amitié. Je m'en vais. Ou tout simplement, ça me prendra trop de temps. J'ai autre chose à faire. Je ne veux pas ça. On n'est plus témoin. Le témoin, c'est celui qui est engagé en vue de la cause. Alors prenez ça pour l'accident, prenez ça pour votre vie chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des spectateurs. Spectateurs de la messe du dimanche. J'y assiste, j'y suis, mais je m'engage pas du tout. C'est très beau, une très belle liturgie. Je vais à tel endroit parce qu'il y a une très belle liturgie. Spectateur, comme pour le concert, spectateur, je ne m'engage pas du tout. C'est une petite distinction importante qui est intéressante parce que je vois ce que c'est d'être engagé. C'est l'imperium et l'usage. Tandis que le spectateur, c'est quoi? Oui, l'imperium, peut-être, d'un autre. Et pas plus. Je regarde. J'ai vu. C'est l'intelligence qui l'emporte. Mais ce n'est plus l'intelligence pratique. L'intelligence pratique réclame l'usage. Tandis que l'intelligence qui est spectatrice, je suis spectateur, c'est l'intelligence tournée vers l'aspect de l'imagination. Je vois, je regarde, c'est intéressant. C'est intéressant de regarder. Ça m'apporte quelque chose. Mais je ne m'engage pas. Mais il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Parce qu'on peut être quelquefois spectateur du noviciat. Je suis entré, je suis spectateur. Je vois autour de moi, oui. Il y en a qui me paraissent intelligents. D'autres qui me paraissent moutons de panurge, ne savent pas très bien ce qu'ils font. Quand je faisais mon noviciat chez les Dominicains, on a appris au bout de 6 mois qu'il y avait quelqu'un qui était entré, recommandé par le prieur général qui était à Rome, et qui était là, envoyé par la franc-maçonnerie pour être spectateur. Pour noter exactement qu'est-ce que c'est qu'un noviciat dominicain. Est-ce qu'il se passe des choses curieuses, secrètes, spectateurs, pas du tout engagés. Et quand on a su qu'il partait un beau jour, il a dit qu'il partait. Et à ce moment-là, il a dit, je suis entré uniquement comme spectateur. Téléguidé par un tel, on a roulé le père général, on lui a dit qu'il voulait entrer, le père général a recommandé, on n'a fait aucune enquête, et on a vu tout simplement, sans le savoir, qu'au fond c'était spectateur. Quelqu'un regarde et note. Pour faire un article de journal, j'ai passé 6 mois chez les Dominicains, au noviciat, voilà ce qui se passe. Je suis spectateur, oui, un peu plus là, puisqu'il fait un article de journal. Donc il est engagé d'une autre manière. Il est spectateur par rapport au noviciat. Il est engagé par quelqu'un d'autre. C'est très curieux ça, cette dualité qui peut se faire. Oui. J'ai entendu, c'était à Fribourg. Euve Méry, qui était à ce moment-là directeur du journal Le Monde, qui à Fribourg fait une conférence sur l'objectivité de cours où l'on est thomiste, on sait bien ce que c'est que l'objectivité, comme parle saint Thomas. Et bien moi, je vais vous parler de l'objectivité du journaliste. C'était intéressant de voir ça. Qu'est-ce que c'était son objectivité? On l'envoie aller voir sur les lieux. Qu'est-ce qui se passe? Il est envoyé avec une idée. On l'envoie, il a une idée. Et l'objectivité consiste à voir que les faits sont conformes à son idée. Ça a été dit comme ça. Mais ça, on le retient. Parce que c'est quelque chose d'assez étonnant. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pas une objectivité réelle. C'est l'objectivité d'un spectateur engagé de telle manière dans tel rôle politique. Il est engagé. Alors il se dit spectateur. Un véritable spectateur devrait regarder les choses objectivement. Mais s'il est engagé dans le parti, pas communiste, mais libéral, absolu, le libéralisme absolu, alors il voit tout dans un verre du parti. Il voit que c'est conforme à ce qu'il avait dit, parce qu'il ne voit qu'un aspect des choses, selon son idée, l'idée qu'il s'est faite. Voyez, alors, ça nous fait très bien comprendre la différence entre le spectateur, celui qui est engagé, à l'intérieur, celui qui est engagé pour telle ou telle cause politique, et qui fait qu'on voit les choses tout à fait différemment. Un vrai spectateur devrait être celui qui regarde les choses dans l'objectivité la plus absolue. Mais peut-on être spectateur d'une activité pratique? Oui, je vous dis, l'intelligence pratique commande l'usage, l'engagement. Pour être tout à fait objectif d'une activité pratique, mais je prends le cas, si vous voulez, tout simplement, d'un spectateur à l'intérieur du noviciat. Peut-on être objectif en étant totalement spectateur et en regardant les choses de l'extérieur? On peut pas. Il y a une objectivité de l'action humaine qui réclame l'engagement. Si je ne suis pas engagé, mon objectivité sera artificielle. Et je verrai tout dans mon prisme, à moi, et je ne verrai pas ce qui est réel. C'est très curieux, ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. L'objectivité et la subjectivité, ça joue différemment. Quand on est dans l'action, l'objectivité implique l'engagement. On peut être objectif que c'est soi-même engagé dans la même finalité que les autres, dans le bien commun. Si on n'est pas engagé du tout dans le bien commun, dans la finalité des autres, on ne peut pas. Notre soi-disant objectivité de spectateur sera faussée parce qu'on se mettra en dehors. Et celui qui est en dehors ne voit pas ce que représente l'exercice finalisé. Là, il y a quelque chose de très important à comprendre pour saisir ce que représente la critique du spectateur. Il suffit de lire les articles de journaux pour s'en apercevoir. On voit tout de suite, ah oui, il a subi telle influence. C'est sous cette influence-là qu'il dit ça. Quand on a vu soi-même quelque chose, quand on a été engagé soi-même, quand un journaliste vient dire « Je veux faire un article sur la communauté Saint-Jean », je vous affirme, je serai d'une objectivité parfaite. On rit intérieurement, tu vois. Parce qu'on sait très bien qu'il ne sera pas d'une objectivité parfaite. Il sera selon la couleur de son journal et l'orientation de son journal. Il dira « Voilà, voilà ce que j'ai vu. » Oui, il a vu tout dans un prisme donné. Et tout ce qui n'était pas conforme à ce prisme, il l'a laissé tomber. Alors, est-ce que c'est encore objectif? Mais non. C'est l'objectivité du journaliste au service du journal. Et il ne prend que n'est jamais, dans l'ordre pratique, un pur spectateur. Il est un spectateur, mais engagé lui-même dans un point de vue politique. Ordinairement. Ou la politique du journal est engagée dans un autre sens. Alors, il est et regarde la vie des autres d'une façon extérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que l'usage? C'est l'application directe de ma volonté à réaliser ma finalité. L'usage, quand vous assistez à un cours, vous pouvez être absent de ce cours. Vous êtes présent 5 minutes, et puis au bout de 3-5 minutes, oh, c'est difficile, je comprends rien. À ce moment-là, l'imagination prend le dessus et vous vous mettez à rêver. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Puis tout d'un coup, vous vous réveillez et dites, oh, je suis au cours maintenant, et c'est vrai. Là, je m'applique. L'application, c'est entrer dans la finalité de tel exercice. Le cours est fait pour que nous essayions de comprendre ce que c'est que la vérité d'ordre pratique, d'ordre moral. Il y a une vérité morale de l'imperium, il y a une vérité morale de l'usage. Je dois m'y engager entièrement. Je dois être attentif à ce qui se dit en vue de mieux connaître la vérité. Je coopère avec les autres. Quand on donne un cours, le cours n'est vraiment un cours que quand il y a une coopération entre celui qui enseigne et celui qui écoute. Alors on est dans l'usage. Il y a un usage. Quand vous faites la vaisselle, vous pouvez très bien penser à tout à fait autre chose. Moi, je fais la vaisselle en contemplatif. Alors, en contemplatif, oui, je pense à Dieu, je médite sur l'évangile du jour, et puis je fais la vaisselle, machinalement. C'est-à-dire, je ne vois rien, je ne regarde rien. Je ne fais même pas attention à mon voisin. Je ne coopère pas du tout avec lui, alors que c'est un exercice où on coopère. Eh oui, à ce moment-là, il y a un manque de charité. Je ne m'engage pas. La charité consiste à s'engager dans tous les exercices qu'on fait. Et s'y engager totalement, pleinement. Je coupe, vous voyez, on sépare. C'est très curieux à l'usage. Et c'est très important, parce que c'est là où on touche la vraie sainteté. On est engagé et on fait l'usage en coopérant. Ordinairement, c'est dans l'usage que se fait la coopération. Un véritable usage implique, si on est plusieurs à faire la vaisselle, on la fait à plusieurs. Si je la fais seul, comme si j'étais seul, je ne coopère pas. Il manque quelque chose à mon usage. L'usage permet la coopération. L'imperium fait la coopération avec celui à qui j'obéis, mais pas avec les autres. Si tous obéissent, alors à ce moment-là, il peut y avoir une coopération dans l'usage. Et c'est ce qui serait très curieux à noter, hein. La coopération propre de l'imperium dans l'obéissance, la coopération propre dans l'usage, où on est liés les uns aux autres vers la même finalité, vers la même œuvre. Là, on saisit le tissu particulier du bien commun qui se fait. Le bien commun se réalise à partir de cette coopération dans l'usage. Le bien commun n'est pas ici. Bien que le bien commun peut déjà être ici, si celui, pas le spectateur, pardon, l'usage, prenez, commun dans l'ordre de l'Imperium, c'est à l'égard de la coopération, à l'égard de l'obéissance. Grâce à l'obéissance, je coopère avec celui qui a autorité et le bien commun est engagé dedans. Parce que celui qui a autorité regarde le bien commun. Et il me demande de faire cette chose en vue du bien commun. Je coopère dans l'obéissance et le bien commun, je le porte en moi. Mais le bien commun se réalise concrètement grâce à l'usage. C'est dans l'usage que l'activité morale devient singulière et tout à fait concrète. C'est l'aspect ultime de l'aspect singulier de l'activité humaine. Je m'applique à faire ça. Je m'applique de le faire dans la coopération avec les autres. Et c'est ça l'usage qu'on fait d'une œuvre commune. Et à ce moment-là, le fruit de cette application, c'est vraiment le bien commun. Le bien commun est le fruit de cette coopération poussée jusqu'au bout, dans une application tout à fait concrète. Le bien commun est quelque chose de concret. Et il est le résultat de l'application que j'ai pour réaliser telle œuvre. Cette application me permet de réaliser telle œuvre. Alors c'est pour ça que cette application, donc l'usage, implique l'application. L'application de la volonté sur telle ou telle matière à transformer. Lorsque cet usage implique un facere, la réalisation d'une œuvre. Lorsque l'usage n'est plus l'application d'une œuvre, mais simplement coopérer dans la charité fraternelle. Je ne regarde plus l'œuvre, mais je regarde celui avec qui j'œuvre. Et cette coopération fraternelle peut exister en vue d'une œuvre. L'œuvre implique la matière. Vous voyez, c'est complexe l'usage. Il y a un usage au niveau efficacité, un usage au niveau l'union, l'unité dans la charité fraternelle. L'unité dans la coopération fraternelle. On fait ensemble la même œuvre. On réalise ensemble la même œuvre. Et c'est au niveau de l'usage que se fait cette coopération de la manière la plus forte qui soit. Complexité de l'acte moral se réalise dans l'usage, dans cette coopération. Mais je peux très bien, si je suis ermite, coopérer avec tous mes frères, invisibles et présents. Je prie pour eux en m'appliquant à faire mon travail. Je le fais en union avec eux. C'est pour ça que là encore, on voit comment cette coopération peut s'étendre et acquérir un regard très universel. Mais cette coopération peut être en même temps très singulière autour de la même œuvre. Alors, vous voyez là le lien vital, volontaire, qui existe entre eux. L'impérium et l'usage. L'impérium passant par l'obéissance, coopération avec quelqu'un qui me commande, dont je reçois l'ordre. Coopération de l'usage avec quelqu'un qui, comme moi, réalise la même œuvre. Coopération affective, lorsque je réalise quelque chose avec quelqu'un qui pense comme moi et qui exécute comme moi. aspiration peut très bien se réaliser, se concrétiser dans une œuvre commune. Et après cet usage, il y a la joie de réaliser cela ensemble.